La chronique Je lire, proposée par Henri Landré.
C'est la chronique Je lire sur JetFM et Je lire un essai de Corinne Morel-Darleux baptisé Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, sous-titré Gymnastique des confins, tout juste publié aux éditions Libertalia, les mêmes éditions où elle avait publié en 2019 le remarquable Plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce, dont nous vous avions pas mal parlé sur cette antenne. Corinne Morel-Darleux est déjà venue quelques fois à Nantes et nous avons eu l'occasion de faire ensemble quelques bouts d'émissions de radio lors de rencontres publiques. La toute dernière en date, c'était il y a presque un an, pour le festival Nature Nomade, porté par l'association Nature Nomade et la Géothèque. Festival, je le dis en passant, qui arrive très bientôt aux alentours du 11 novembre prochain avec une très belle programmation. Fin de la parenthèse. Et Corinne Morel-Darleux a eu la gentillesse de me faire envoyer ce nouveau livre qui reprend donc quelques réflexions. Après avoir fait un détour par la fiction avec La Sauvagière, eh bien elle revient à l'essai, la réflexion sur ce qu'elle vit, ce qui l'entoure et son regard sur le monde qui est très affûté. C'est une femme qui est engagée dans de nombreux mouvements écologistes, libertaires et paysans, qui a eu aussi un engagement politique à un moment et qui observe de manière très fine le monde qui l'entoure, notre monde contemporain. Évidemment la catastrophe écologique en cours, évidemment l'économie qui va vers le mur, mais justement, dans cet essai, l'idée d'aller trouver ce qui pourrait rester de beauté et surtout de mettre en lumière et de parfois réinventer ce qui pourrait advenir de l'humanité. Alors ça n'est pas sans lien finalement avec pas mal de lectures que j'ai ces temps-ci. Et si vous avez écouté l'émission Esperluette de lundi dernier à 18h, eh bien je m'entretenais avec Yannick et Sandrine Roudot qui sont les fondateurs des éditions La Mer Salée qui viennent de publier un recueil annuel qui s'appelle Les Utopiennes et dans lequel une trentaine d'autrices et d'auteurs essayent justement d'imaginer un futur qui serait moins sombre, négatif et apocalyptique que ce qu'on nous vend en permanence ces temps-ci, sans être naïf pour autant. Eh bien, étonnamment, il y a beaucoup de corrélations et de liens avec ce livre de Corinne Morel-Darleux que je suis en train de lire. Un essai qui fait quelques 160 pages, qui coûte 10€ dans cette petite collection de poche de Libertalia. Et j'en suis peu ou prou à la moitié, à la page 95, très exactement. Il s'agit pour Corinne Morel-Darleux de certes faire une observation, un constat, une analyse de notre société, nos sociétés contemporaines, principalement occidentales, mais justement par le biais d'une approche encore plus sensorielle et personnelle que ce qu'elle avait fait jusqu'ici, avec des réflexions autour de la littérature, autour de l'écriture, autour de la création et de son propre engagement dans ces voies-là. Et qui amène d'autres possibilités d'avenir, de solutions ou d'observation du vivant. Notamment parce que tout cela est parti d'un voyage en Inde, un voyage dont Corinne Morel-Darleux n'attendait rien de spécial, ou peut-être de voir se concrétiser un certain nombre de clichés qu'elle se faisait de l'Inde, et finalement c'est tout autre chose qu'il se passe. C'est un choc esthétique à différents endroits, un choc sensoriel évidemment, et elle en ressort avec tout un paquet de notes qu'elle a mis en forme ensuite dans ce récit, qui reprend donc quelques-uns des éléments de ce voyage, mais qui sont corrélés avec d'autres réflexions et puis beaucoup de lectures. C'est avant tout une très grande lectrice et une passionnée de littérature et d'écriture, et elle en fait état dans ce livre. Je vous donne à entendre un rien de son écriture et de sa pensée à travers deux petits extraits. Tout d'abord, un rien du chapitre 4. Alors ce sont de tout petits chapitres, à peine des chapitres, presque des parties, qui découpent le récit. Éprouver la relativité de ce que l'on tenait pour certains est une expérience très instructive. Elle m'a doté d'une sévère capacité à l'empathie. Quand je vois une personne à terre, je ne me demande pas si elle a un képi. Plus je côtoie quelqu'un dans son quotidien et son humanité, moins je parviens à le détester, quand bien même nos positions seraient opposées. Cela ne me rend pas forcément la personne sympathique, ce qui supposerait de partager des sentiments et un lien affectif, mais il me semble que je peux comprendre, sans toutefois les excuser, beaucoup de choses. Cela me met parfois dans des positions délicates, où l'empathie pourrait s'apparenter à de la lâcheté ou à une forme d'irénisme spontané. c'est évidemment plus compliqué. Il ne m'est pas aisé de transgresser les règles généralement admises. Je préfère la discrétion au scandale. J'aime me sentir apprécié. Je connais de nombreuses personnes que la colère électrise, que le conflit nourrit et que la violence même galvanise. Je n'ai jamais fait partie de celle-ci. Ma dernière bagarre remonte à l'école primaire. J'y avais mis tout mon cœur et récolté un bel œil au beurre noir. Mais aujourd'hui, je ne sais pas lancer un cri. Et si j'ai un peu pratiqué la boxe et les arts martiaux, cela a toujours été en vue de contrer. Et je n'ai jamais été aussi assidu que je l'aurais souhaité. Des quatre émotions primaires, je ne connais que la peur, la tristesse et la joie. La colère m'est étrangère. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un manque de courage, cela ne m'a pas empêché de me rendre sur des territoires en guerre, de me mettre en danger de mille manières. Mais cette absence de colère me prive sans doute parfois de ressorts salutaires. Et l'empathie n'est pas gage d'un caractère heureux, c'est une véritable éponge à misère. Un petit extrait de « Alors, nous irons trouver la beauté ailleurs » de Corinne Morel-Darleux. On est plutôt au début du livre, puisque c'est à la page 25. Au fur et à mesure, les réflexions vont se teinter d'extraits de livres, comme je le disais, et de littérature qui émaillent le récit de Corinne Morel-Darleux. Voici un autre extrait, un peu plus loin, page 36. « Nous avons besoin de ces laps de temps durant lesquels l'inconscient peut se faire entendre. » Or, la qualité et le temps de sommeil déclinent partout dans le monde, du fait des conditions de travail, des temps de trajet, de la misère, du mal logement et des écrans. Pour l'économie de l'attention, dans un contexte où l'offre est abondante, l'attention des consommateurs est devenue une ressource rare à capter par n'importe quel moyen. Il n'existe plus de temps disponible ni de vacuité fertile, plus d'osium qui permettrait à nos monologues de rester audibles dans la journée. Les sollicitations permanentes nous privent du temps simplement de s'écouter, en plus de la possibilité de s'émerveiller du monde. Dans ces circonstances, défendre le droit au rêve est aussi un combat social, et l'accès à la lecture devient un enjeu essentiel, celui de nourrir nos imaginaires, de s'affranchir du réel et d'activer nos vies intérieures, doublées d'une des plus belles et efficaces manières de changer de perspective. Or, modifier nos représentations du monde est devenu un impératif. Ne serait-ce que parce que nous avons nous-mêmes modifié ce monde et que les activités humaines sont en train d'en détruire les fondements géophysiques. Il n'est plus possible de se le figurer comme par le passé. Les mutations en tout genre s'accélèrent à un rythme monstrueux. Qu'il s'agisse de la teneur des débats politiques, du pouvoir des algorithmes, du rôle des institutions dans la démocratie, du dérèglement climatique ou de l'ardente nécessité de réduire la production, le monde tel que nous le connaissons est en train de changer de base. Singulièrement, la place de l'humain dans les écosystèmes, non plus comme maître et possesseur, mais comme faisant partie de cette nature dont il a prétendu s'extraire, est une inflexion majeure. Ce tournant ontologique, qui revisite les frontières entre culture et nature, entre animé et inanimé, entre sujet et objet, offre sans doute un de ses plus beaux défis à la littérature. Quand l'anthropologue Philippe Descola écrit dans « Ethnographie des mondes à venir » « Un sujet politique est un brouilleur de frontières qui, par sa nature ou son action, recompose les mondes », il évoque un milieu de vie, un glacier ou une ZAD. Moi, je pense instantanément à un roman. Car qu'est-ce qu'un roman si ce n'est un milieu de vie? Cela m'a frappé à la lecture et je ne cesse d'y songer depuis. La fiction aussi peut se faire brouilleur de frontières et offrir un précieux moment perspectiviste. Comme l'écrit plus loin son co-auteur Alessandro Pignocchi, la faculté de se projeter dans la peau de l'autre est au moins aussi utile que l'argumentation rationnelle objectivante. Or, si le chaman est capable de se projeter tout entier dans le corps de l'autre, n'est-ce pas également la qualité première de toute romancière? Se glisser dans la peau d'un personnage, trouver son langage et envisager son point de vue, comprendre ses motivations et adopter sa perspective, nous ne faisons rien d'autre. Par l'imagination qu'il déploie et la projection qu'il facilite en tendant à la lectrice ou au lecteur des figures, des histoires et des émotions à saisir et faire sienne, le roman est bien une voie majeure pour se représenter le monde tel que composé par l'autre. Et ce d'autant plus qu'en fiction, tout est possible. Se mettre dans la tête d'un ours, voler ou respirer sous l'eau, faire parler une montagne, ressentir l'émotion d'un ruisseau, et même faire advenir ce qui n'a pas encore paru. Autrices et auteurs peuvent choisir de s'y affranchir des contraintes du réel et des codes sociaux, y bousculer les normes communément admises, exorciser de vieux passifs et expérimenter des choses impossibles dans la vie éveillée. Cette émancipation du réel et ce léger toucher de l'inconscient qu'offre le roman procurent, quand on y parvient, un plaisir jubilatoire. Contrairement au récit ou à l'autofiction qui, eux, fouillent le réel à la recherche de l'inconscient, contrairement à l'essai qui impose une rectitude de la pensée, écrire un roman vous donne alors l'impression de gambader joyeusement dans la prairie de l'incroyable liberté de la fiction. Après avoir abandonné ce terrain pendant 20 ans, l'autrice Arundhati Roy dira à la sortie de son deuxième roman « Le ministère du bonheur suprême » « Pour moi, la non-fiction est toujours une intervention dans une situation bloquée. C'est une argumentation, alors que la fiction est la construction d'un univers. Construire d'autres univers, je ne peux imaginer plus réjouissant. » Ce sont les mots de Corinne Morel-Darleux dans ce très bel essai « Alors, nous irons trouver la beauté ailleurs », sous-titré « Gymnastique des confins », publié tout fraîchement aux éditions Libertalia pour 10 euros. Il était question de chaman, en voici un, c'est Donovan.
Yon wheeling of great stars hath cast a silver web around my heart. Upon an elfin sea, in a ship of filigree. And look upon her prow, a sign upon her brow. She guides us on our way, when hearts they go astray. Lorelei, Lorelei, who will dry your pretty eyes? Lorelei, as you fly around those starry skies. Lorelei, why, oh why, why, oh why, oh Lorelei?
Yeah, ma, I am shaman. Yeah, ma, I am shaman. Yeah, ma, I am shaman. I am shaman.
All those wheeling of great stars, they cast a spell on me as I wander through the stars. Linda, love and me, I don't know how I got here, but I know where I go as I wander. All I know, Lorelei, Lorelei, who will dry your pretty eyes as you fly, Lorelei, around these starry skies, Lorelei, Lorelei. Lorelei, oh why, oh why?
Yeah, I am shaman. Yeah, I am shaman.